Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Voici maintenant, je suis avec l'ambassadeur français en Indonésie, Monsieur
Charles
Bertonnet. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
À propos de l'indépendance, c'est pas l'indépendance, mais le jour national de France, le 14 juillet, ça fait de plus de 200. Alors, est-ce que cette année, il y a le thème spécial que des années précédentes, monsieur?
Je dirais que cette année, comme les années précédentes, nous serons très nombreux à célébrer la fête nationale le 14 juillet en France, mais aussi dans toutes les ambassades de France dans le monde, y compris à Jakarta, et que nous célébrons la naissance de la République en France, et surtout à cette occasion la défense des valeurs de la démocratie, les valeurs qui sont dans la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Et je crois que ces valeurs sont très actuelles dans le monde d'aujourd'hui, et ces valeurs sont partagées avec l'Indonésie d'ailleurs, puisque sa propre devise « Unité dans la diversité » est aussi le reflet d'une aspiration à la démocratie, à la liberté, à la tolérance entre les différents groupes religieux et ethniques. Toutes ces valeurs de tolérance et de démocratie, nous les partageons entre Français et Indonésiens. Et nous sommes très heureux de les célébrer cette année, comme les autres années. Vous savez que ces derniers temps, ces valeurs sont un peu menacées par des phénomènes tels que l'extrémisme ou le terrorisme. Là aussi, nous voulons vraiment affirmer, face à ces phénomènes dangereux, nos valeurs partagées avec l'Indonésie. Et nous serons très heureux de le faire, notamment à Jakarta, demain.
Ok. Est-ce que c'est peut-être c'est le plus spécial parce que c'est la France, c'est le monde de finale de la Coupe du Monde. Est-ce que
ça, évidemment, ça fait. Je vous mentirais si je vous disais qu'on n'a pas ça à l'esprit et qu'on l'aura très fort également demain lors de la réception pour notre fête nationale. Bien sûr, la Coupe du Monde généralement a lieu au mois de juillet et donc la finale a toujours lieu autour du 14 juillet. Et donc quand la France est en finale, ça apporte une dimension particulière. Et donc cette année, le 14 juillet, par définition, est avant le 15 juillet. Donc ce sera la veille. Donc la réception ici et les célébrations en France auront lieu avant la finale. Ça veut dire qu'on ne connaîtra pas le résultat, mais on sera tous très impatients de voir le match le lendemain et surtout impatients de voir la France gagner cette Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire.
Est-ce que si l'ambassade de France fait organiser spécial pour les...
Alors il y a l'Institut français qui est juste à côté de l'ambassade sur Tamarine organise à diffuser tous les matchs de l'équipe de France et diffusera dimanche également la finale, bien sûr, oui. Mais je sais qu'il y a les Français vont se retrouver dans différents bars de Jakarta pour regarder ensemble la finale.
Quel est le joueur de l'équipe qui vous préférez, monsieur?
En ce moment, c'est un peu facile à dire, mais il y a un joueur qui explose, qui crève l'écran, c'est Kylian Mbappé, qui a 19 ans. Ça veut dire qu'il n'était même pas né. Il n'était même pas né quand la France a gagné la précédente Coupe du Monde en 1998. Et il est très jeune, il est très explosif, il a des dribbles virevoltants qui désarçonnent les défenseurs adverses. Voilà, donc il est, oui, c'est certainement, on verra ce qu'il fera dimanche, mais c'est certainement un des joueurs les plus marquants de cette Coupe du Monde.
Ok. Maintenant, c'est l'autre question, c'est. Et comment sont les coopérations franco-indonésiennes après l'arrivée du président Hollande l'année dernière? Et comment la promesse d'investissement que la France a déjà mentionné ça?
Alors, il y a effectivement, il y a 35 contrats ou MOU ou accords qui ont été signés lors de la visite de François Hollande. C'était il y a un an, donc on ne peut pas non plus attendre que tout soit mis en œuvre, mais beaucoup de choses a été fait. Et je citais tout à l'heure les projets de Engie, donc une entreprise, un groupe français très investi dans les énergies renouvelables. Et je crois que le changement climatique, les énergies renouvelables sont vraiment un point important de notre coopération. Et Engie a plusieurs projets d'électricité produits à partir de la géothermie qui ont commencé à être mis en œuvre. On a d'autres projets qui avancent. On a cette possibilité de livraison d'avions de transport A400 par Airbus pour faciliter la connectivité avec la Papouasie. Cet accord est Ce contrat est tout près d'être signé, il ne l'est pas encore, mais j'espère qu'il le sera bientôt. Et voilà, et donc on pourrait citer bien d'autres investissements, ceux de Michelin, ceux de Decathlon, le succès de Colas Rail sur le tramway, le LRT Jabodetabek à Jakarta. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup reste à faire, bien sûr, hein, pour mettre en œuvre tout ce que nous avions envisagé lors de la visite du président Hollande, mais les choses avancent et nous à l'ambassade, nous faisons tout pour qu'elles avancent encore plus vite.
Est-ce que la coopération militaire, si je ne me trompe pas, le PINDAT, c'est avec le Renault, n'est-ce pas, et pour organiser le Panzer ici, ça les mentionne.
Beaucoup de coopération dans le domaine militaire, c'est vrai. Vous avez cité cette coopération dans le domaine des véhicules de transport, blindés. On a aussi l'entreprise Nexter qui livre des canons qui sont très appréciés, je crois, par l'armée indonésienne. Voilà, on a beaucoup de projets dans ce domaine. On a le projet des avions de combat Rafale. On propose aussi aux partenaires indonésiens des sous-marins. Voilà, on a beaucoup des radars aussi, des radars de protection aérienne. Voilà, donc on a beaucoup de projets. Et ce que je voudrais dire, c'est que ces projets incorporent beaucoup de. Enfin, les entreprises françaises sont très conscientes de l'importance du transfert de technologie, de la formation du personnel, du contenu local, de l'assemblage local. Et donc, la plupart de ces offres comportent une offre dans ces trois directions.
Bon. Ça, c'est le gouvernement de François Hollande. Est-ce que c'est après le nouveau président de Emmanuel Macron? Est-ce que c'est la politique a changé? Ou surtout pour l'Indonésie?
Certainement pas. Enfin, si l'élection d'Emmanuel Macron a apporté un certain nombre d'impulsions au plan intérieur, au plan extérieur, en ce qui concerne l'Indonésie, c'est évident que nous devons que le président a l'intention de continuer le partenariat stratégique avec l'Indonésie. Le président Macron a rencontré brièvement le président Jokowi l'année dernière à Hambourg, en marge du sommet du G20. Nous espérons organiser dans un sens ou dans l'autre une visite au plus haut niveau pour qu'il se parle plus longuement et qu'il discute de tous ses projets. Donc soyez sûr que le président Macron a bien conscience de l'importance de l'Asie du Sud-Est et de l'Indonésie, qui représente près de 40% du PIB de l'ASEAN, et de son importance en tant que membre du G20, que membre du Conseil de sécurité, puisque vous avez été élu en juin membre non permanent du Conseil de sécurité. À partir de l'année prochaine, pendant 2 ans, vous serez membre du Conseil de sécurité. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Et donc, nous allons travailler étroitement pour régler un certain nombre, en tout cas essayer d'avancer sur les grandes crises régionales qui vous préoccupent, qui nous préoccupent, comme le Moyen-Orient, les Rohingyas. Voilà. Donc, le président Macron est bien conscient de l'importance de l'Indonésie et j'espère qu'il pourra se rendre cette année ou plus tard l'année prochaine à Jakarta.
Ok. Maintenant, peut-être c'est la dernière. Les questions de Palmi Alouil, c'est un peu c'est très très sérieux en ici, parce que l'Union européenne est un peu c'est pour le produit de l'Indonésie, c'est un peu c'est un peu stoppé ou discriminé. Comment d'après vous, monsieur?
Alors justement, vous avez prononcé le mot de discrimination. Nous, nous sommes contre la discrimination de l'huile de palme. Il y a eu tout un débat sur, à l'occasion de l'adoption d'une directive de l'Union européenne sur les énergies renouvelables. Et dans ce débat, la France, pas toute seule d'ailleurs, hein, a pris position pour un traitement non discriminatoire de l'huile de palme par rapport aux autres huiles végétales. De sorte qu'on puisse continuer à importer de l'huile de palme, y compris en France, à la condition néanmoins que nous ayons des garanties sur le fait que cette huile de palme soit effectivement durable ou sustainable, comme on dit en anglais, qu'elle soit certifiée, et il y a un certain nombre de certifications qui existent, qui pourraient sans doute être améliorées. Mais nous avons confiance et nous savons que les autorités indonésiennes travaillent activement sur l'amélioration de ces certifications. Et donc si on obtient ces garanties de soutenabilité, de durabilité de l'huile de palme, nous continuerons à en importer, y compris dans la filière des biocarburants, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le groupe Total est en train de va lancer prochainement une ancienne raffinerie pour carburant fossile converti au biocarburant. Et cette raffinerie convertie au biocarburant utilisera la moitié des matières premières dont elle a besoin. Ce sera de l'huile de palme qui viendra en particulier d'Indonésie. Et ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, la France va importer 300 000 tonnes, ce qui est énorme, hein, 300 000 tonnes d'huile de palme, pas que d'Indonésie, puisque la Malaisie est aussi un gros producteur, mais sans doute à peu près la moitié d'Indonésie. Et donc on va c'est un signe que nous sommes pour cette approche non discriminatoire pour continuer d'importer de l'huile de palme durable, notamment d'Indonésie.
Ok, merci monsieur. C'est un petit interview à propos de 14 juillet. Bon, merci beaucoup.
Merci à vous.